Les femmes trans et les hommes trans ont toujours été mis en danger par les personnes cis dans l'espace public. C'est les personnes cis qui nous insultent, c'est les personnes cis qui nous agressent. Mais ça touche tout un tas de personnes, et en fait, ce qu'on va avoir, ça va pas être peut-être une police du genre, mais ça va être des milices du genre. Depuis que cette décision de justice est passée, il n'y a quasiment pas un jour qui se passe sans qu'il y ait un nouvel article sur « cette femme a voulu juste aller au WC et elle a été dénoncée par quelqu'un qui était là qui l'a accusée d'être trans ». Tout ça sont des situations qui sont ouvertes désormais par ce genre de décision et qui mettent en danger de prime abord les personnes trans, mais en réalité, tout le monde dans une espèce de société de la surveillance permanente sur le plan du genre. Tout ça pour régler un problème qui n'existe pas, je le rappelle.
Bonjour à tous, je m'appelle Sam et vous écoutez Le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. Le 16 avril dernier, la plus haute instance juridique du Royaume-Uni, c'est-à-dire la Cour suprême, a décidé unanimement que la définition légale d'une femme repose sur le sexe biologique et non sur le genre. Alors évidemment, cette définition exclut les femmes trans et autres personnes trans. Plusieurs associations LGBTQIA+ ont alerté sur les conséquences que ça pourrait avoir sur les droits des personnes trans, notamment les organisations Equality Network et Scottish Trans, qui craignent que ce jugement limite la portée de la reconnaissance de genre et que le genre des personnes trans ne soit plus reconnu dans de nombreuses situations. Pour parler des conséquences de cette définition, je reçois Margot Mahoudeau, autrice du livre « La panique woke », militante féministe et queer, mais aussi coprésidente de l'association L'Espace Santé Trans, qui est une association fondée en 2015, située en Île-de-France, qui rassemble des militants et professionnels de santé engagés dans la protection des droits et la promotion de la santé des personnes trans. Margot, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, je voudrais qu'on clarifie que ce qui s'est passé donc, à la Cour suprême n'est pas une loi.
Non, absolument. C'est une décision de justice qui a été prise suite à une série en fait, d'appels contre le gouvernement écossais. Le gouvernement écossais s'était doté il y a quelques années d'une loi de parité en matière notamment électorale et une organisation anti-trans locale qui s'appelle For Women Scotland, qui, contrairement à ce que son nom indique, est une organisation spécifiquement mobilisée sur la question de la lutte contre les droits des personnes trans, a fait une série de recours devant la justice pour obtenir que les décrets d'application de cette loi excluent les personnes trans, toutes les personnes trans, parce qu'au début, la loi s'appliquait aux femmes trans dans la mesure où elles s'identifiaient comme telles, puis il y a eu un premier recours, la loi a ensuite été appliquée aux femmes trans qui avaient obtenu un changement de sexe à l'état civil, et désormais, suite à cette décision, elle ne s'applique plus à aucune femme trans. Et là où, en fait, ça concerne tout le Royaume-Uni, c'est que la justification qui était prise par le gouvernement écossais pour appliquer cette loi de parité aussi aux femmes trans, c'était qu'une loi d'égalité femmes-hommes passée en 2010 au Royaume-Uni, eh bien, de leur point de vue, incluait les femmes trans. Et c'est sur ce point-là que la Cour a tranché.
Et donc, en quoi cette nouvelle définition, du coup, change la vie des personnes trans au Royaume-Uni concrètement, que ce soit dans l'espace, que ce soit en rapport avec donc l'Equality Act dont tu as parlé, là, l'égalité homme-femme passée en 2010. Qu'est-ce que ça change concrètement ?
Alors, c'est un peu ce qu'on est en train d'essayer de saisir en ce moment. Il y a des points sur lesquels c'est évident, hein, c'est-à-dire qu'il est désormais autorisé de discriminer contre les personnes trans au motif de leur transidentité, c'est-à-dire par exemple de créer une association féminine dans laquelle les femmes trans puissent être légalement, explicitement rejetées, quel que soit l'état de leur transition. La même chose du côté des hommes. Il y a des informations sur le fait que les dispositifs de lutte contre le sexisme ne s'appliquent plus aux femmes trans. Et puis, il faut prendre en compte le fait qu'en fait, au Royaume-Uni, on est dans un véritable moment de backlash très très fort sur les droits des personnes trans et qu'il y a beaucoup de gens qui poussent pour que, en fait, cette interdiction, elle s'applique à tous les aspects de la vie. C'est-à-dire les toilettes, c'est-à-dire le sport, c'est-à-dire y compris même certains groupes transphobes qui disent puisque les discriminations sont désormais si fortes contre les personnes trans, la solution de compassion, c'est d'interdire aux personnes de transitionner tout court, puisque ça les mettrait dans une situation de discrimination évidente.
Et donc, comme tu l'as dit, les personnes trans, après ça, peuvent être exclus de certains espaces, certains services comme les hôpitaux, les foyers, notamment les foyers qui sont pour les femmes cis,
victimes de violence conjugale. Ouais.
Voilà.
Et oui, effectivement. Ouais. C'est-à-dire que si une femme trans est victime de violence conjugale, elle peut être exclue d'un foyer pour femmes au motif du fait qu'elle est trans, et donc se retrouver sans ressources.
Et on parle de exclure les personnes trans si c'est proportionné, mais en soi, ça ne veut rien dire.
C'est un peu le problème de cette décision de justice, c'est qu'elle prend beaucoup de choses pour acquises, et notamment, en fait, elle ne définit pas ce que c'est que, de son point de vue, le sexe biologique, c'est-à-dire elle dit le vrai sexe, c'est le sexe biologique, mais elle ne dit pas ce que c'est. Et puis, elle dit les exclusions sont justifiées à partir du moment où elles sont proportionnées, sauf que la question de la proportion, elle n'est pas définie. Et puis, que ce qu'on voit dans le processus même de la prise de décision, c'est qu'en fait, les intérêts des personnes trans ne sont pas pris en compte. À ce titre-là, le truc le plus clair sur ce sujet, c'est le fait que à aucun moment dans ce processus de décision, la Cour n'a entendu les premières personnes concernées, c'est-à-dire les personnes trans à proprement parler. Les activistes anti-trans ont eu toute l'occasion de présenter leur propagande et les personnes trans n'ont pas eu le droit de présenter le cadre. Pourquoi est-ce qu'elles devraient avoir le droit de garder leurs droits les plus élémentaires?
Oui, parce qu'ils partent du principe que du coup, ça concerne les femmes cis et pas les femmes trans, même si ça les exclut, quoi.
Ça concerne même uniquement les femmes cis transphobes, puisqu'il faut se rappeler que un grand nombre de femmes cis, c'est d'ailleurs la très grande majorité des organisations féministes au Royaume-Uni n'ont pas de problème avec les femmes trans. Et donc la décision, en toute logique, c'est de dire ça concerne du coup les personnes qu'on a envie d'entendre, c'est-à-dire les personnes transphobes en réalité.
Je voudrais savoir comment cette loi interagit avec les lois du GRC, du Gender Recognition Certificate.
Elle interagit en déclarant que pour ce qui concerne la lutte contre le sexisme, et les partisans de cette décision de justice s'y poussent pour que ce soit dans tous les aspects de la vie, le GRC, c'est-à-dire le processus par lequel une personne trans peut obtenir le changement de son marqueur de sexe à l'état civil, soit nul et non avenu. Il faut savoir que ce GRC, il a été passé au Royaume-Uni en 2004 parce que le Royaume-Uni ne respectait pas, en ne permettant pas aux personnes trans de changer leur marqueur de sexe, les droits fondamentaux de ces personnes, notamment leur droit à la vie privée. C'est-à-dire que vous pouvez vivre votre vie comme une femme, être perçue par tout le monde comme une femme, quelle que soit la définition qu'on met sur ce terme par ailleurs, et quand même, face à votre employeur, face à un certain nombre d'administrations, devoir présenter un papier qui dit « Monsieur machin ». Et ça peut vous exposer à des discriminations, ça peut vous exposer à des violences. Donc la Cour européenne des droits de l'homme, en 2004, a dit au Royaume-Uni « Il faut revoir votre copie ». Et le Royaume-Uni s'est muni d'une loi qui donne la possibilité de faire un changement de marqueur de sexe à l'état civil. Ce changement, il n'est pas automatique. Ce n'est pas automatiquement, vous dites « Ah bah tiens, aujourd'hui j'ai décidé d'être une femme » et vous l'êtes. Il nécessite un processus qui est humiliant, qui est long, qui est douloureux, qui nécessite d'aller voir des services, notamment des cliniques de genre qui sont surchargées et qui ont des années de file d'attente. Vous êtes obligé d'attendre 2 ans dans votre identité réelle pour pouvoir l'obtenir. Il faut passer devant une procédure lourde. Et donc, ce truc-là, en fait, il a été décrété comme étant... c'est juste un bout de papier et ça n'a pas de valeur légale. Il faut voir autre chose aussi sur cette question du changement de sexe à l'état civil. C'est que, en fait, on a là-dessus une mécompréhension complète de ce que demandent les personnes trans. On a un traitement des personnes trans comme étant des personnes qui s'imaginent de façon abstraite comme ça vivre dans un autre sexe que celui qui leur a été assigné à la naissance. La réalité, c'est que vous avez une vie réelle, en fait. Et dans cette vie réelle, effectivement, vous avez le droit à un certain nombre de protections. Et ce qu'on fait autour de ce débat sur les personnes trans, c'est d'ignorer complètement cette vie réelle pour faire comme si elle relevait stricto sensu de l'imaginaire et comme si, en fait, les personnes trans n'avaient pas d'existence ailleurs que dans leur tête. C'est évidemment une position qui est extrêmement déshumanisante et c'est une position qui ne correspond pas à la réalité matérielle et observable. Je pense que c'est important de le rappeler.
Je voulais savoir comment ça marche pour les personnes trans expatriées au Royaume-Uni qui ont du coup... un papier similaire dans leur pays d'origine. Est-ce que ces personnes-là tombent sous la loi du Royaume-Uni? Est-ce que le sexe qui a été fixé de droit par leur pays d'origine compte toujours?
Alors là encore, il va bien falloir voir ce que diront les tribunaux avec le temps. Maintenant, ce que le Royaume-Uni a indiqué, ce que le gouvernement britannique a indiqué depuis plusieurs administrations, c'est-à-dire d'abord sous Rishi Sunak, qui était l'ancien Premier ministre conservateur, et maintenant sous Keir Starmer, c'est être intéressé par le fait de retirer les droits des personnes trans au maximum. Et spécifiquement sur cette question, l'ancienne administration avait dit ben, en fait, on va se munir de procédures qui seront plus dures pour qu'une personne qui a obtenu un changement d'état civil à l'étranger, par exemple, en France, la procédure est plus simple qu'au Royaume-Uni, même si elle est encore trop complexe, eh bien, leur changement d'état civil ne soit pas reconnu au Royaume-Uni. C'est un peu comme votre permis de conduire, si vous voulez, sauf que ça concerne juste qui vous êtes. C'est-à-dire, si votre changement d'état civil était considéré comme, entre guillemets, trop simple par l'administration britannique, alors il était considéré comme étant nul et non avenu.
Le lobby. Tous les vendredis à 14h en DAB+. Sur Radio Campus Paris.
Margot Maudot, maintenant j'aimerais parler de comment on en arrive à cette loi au Royaume-Uni qui pénalise les personnes trans. Parce que malgré un gouvernement mené par un Premier ministre a priori de gauche, en tout cas qui a défendu par le passé la communauté LGBTQIA, la transphobie reste quand même assez présente. D'autant plus qu'il y a beaucoup de personnes influentes qui sont absolument obsédés par le sujet des trans, dont J.K. Rowling. Je voulais savoir comment les organisations TERF, en tout cas anti-trans au Royaume-Uni, ont vraiment une influence sur la Cour suprême, sur le gouvernement.
En fait, cette histoire, beaucoup de gens en ont entendu parler parce qu'à partir de 2019, effectivement, l'autrice britannique J.K. Rowling a commencé à fortement prendre position sur le sujet et à montrer ses de plus en plus ses positions qui sont entièrement anti-trans à des millions de followers sur Twitter, et donc beaucoup de gens s'y sont intéressés avec une vision qui était assez biaisée, consistant à dire la pauvre, elle a juste dit que les hommes et les femmes ça existait, et en échange les méchants woke et les méchants transactivistes lui sont tombés dessus. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce qui se passe, c'est qu'après la victoire du mariage pour tous au Royaume-Uni et aux États-Unis, il y a une coalition d'acteurs conservateurs, issus de la droite conservatrice, qui se sont mis à chercher leur prochaine bataille pour pouvoir organiser le backlash contre le mouvement féministe et contre le mouvement LGBT. Et ils ont choisi les personnes trans parce que c'était une cible jugée comme facile. Et là-dessus, ils se sont attachés, en fait, à la question des femmes trans dans les espaces féminins, c'est-à-dire notamment les vestiaires et les toilettes. Il y a eu une série de lois aux États-Unis qui ont été proposées en 2016 sur ce sujet, qui ont fait grand bruit et qui ont permis de mobiliser une coalition. Et c'est ce sujet-là qui est ensuite exporté au Royaume-Uni à travers certains activistes dans ce pays-là qui vont se mettre en fait à agiter l'idée que le vrai problème pour les féministes britanniques ne doit pas être ce qui les mobilisait à l'époque, c'est-à-dire la lutte contre les violences sexuelles et la lutte contre l'austérité, puisque la politique d'austérité des conservateurs avait beaucoup fait souffrir les femmes, mais la question des personnes trans et la question de ce qu'ils se sont mis à appeler l'idéologie du genre. Il faut voir que ça n'a pas très bien marché avec le féminisme de terrain, que ce soit au Royaume-Uni comme en France d'ailleurs. En France, on a vraiment eu un féminisme de terrain et un mouvement féministe qui a dit « on ne veut pas entendre parler de vos histoires ». Au Royaume-Uni, ça a été moins le cas, notamment parce qu'il y a eu des soutiens de personnalités très, très visibles, effectivement, et qui ont une certaine quantité de ressources aussi à en mettre dans la cause. Et donc, ces activistes anti-trans ont réussi à attaquer de façon assez forte, avec un assez fort soutien médiatique, les droits des personnes trans, jusqu'à en arriver à la situation actuelle. Effectivement, le gouvernement travailliste contemporain, il est de gauche, formellement, hein, il est en réalité pas mal de droite quand on regarde pas mal de sujets. Il faut voir que sur la question des droits LGBT, il a opéré un véritable 180 degrés, puisqu'il est considéré par beaucoup d'activistes LGBT et féministes au Royaume-Uni comme étant pire sur ce point-là que le gouvernement conservateur précédent. Ce à quoi on a affaire, de façon très claire, hein, c'est un effort très fort de lobbying. Et il faut insister sur le fait qu'à toutes les étapes de ce processus, les personnes qu'on n'a pas entendues, ce sont des personnes trans. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé du fait que, soi-disant, J.K. Rowling, soi-disant, je ne sais qui, avait été censuré par la toute-puissance des personnes trans. Mais quand on regarde en réalité, il y a très peu de personnes trans qui ont accès à la parole médiatique et qui sont généralement invitées à venir se défendre, qui ont leur parole qui est déformée, qui est détournée, pour les présenter de façon diabolisante. Donc, il faut prendre en compte le fait qu'on a un effort de lobbying qui a eu un succès. Et c'est pas le premier, on a eu par le passé, et malheureusement, là, actuellement, il a conduit à ce backlash très fort en termes de droits légaux.
Et est-ce que cet effort de lobbying combiné à cette nouvelle définition, du coup, est-ce que ça, à l'avenir, ça peut pas faire une hausse des crimes haineux envers les personnes trans au Royaume-Uni ou même en fait de manière internationale finalement.
Ce qu'on voit depuis plusieurs années, c'est que dans tous les pays où on retient un petit peu des chiffres en la matière, ces crimes, ces agressions sont en augmentation. Que ce soit aux États-Unis où on a eu pas mal de cas de crimes d'agression, des cas de discrimination, des cas de personnes qui sont victimes de harcèlement ou de violence. Et les premières personnes à être ciblées par ça sont évidemment des femmes trans, des femmes noires et des femmes qui sont généralement travailleuses du sexe. Donc c'est les personnes les plus précaires de notre communauté qui sont touchées les premières. Au Royaume-Uni, ça a été également le cas. Il y a eu un assassinat qui a été très fortement médiatisé, qui était l'assassinat de la jeune Brianna Jay, qui est une jeune fille trans qui a été tuée de façon extrêmement monstrueuse par deux autres adolescents au Royaume-Uni. Mais surtout, il faut prendre en compte le fait que ça ouvre la possibilité à de nouvelles violences, c'est-à-dire des gens qui vont être traqués, qui vont être dénoncés, des gens à qui on va demander de justifier leur identité quand ils vont vouloir juste aller aux toilettes tranquillement comme ils l'ont toujours fait dans leur vie, des gens qui vont perdre leur protection face à des discriminations à l'emploi, et puis des cas, et c'est par exemple sur un cas comme ça que J.K. Rowling était rentrée dans ce militantisme, puisque vous me posiez la question tout à l'heure, des cas de gens en fait qui ont obtenu que tenir des propos discriminatoires envers les personnes trans sur leur lieu de travail soit considéré comme étant du domaine de la liberté d'expression et donc inattaquable. À l'époque, en 2019, c'était la position qu'avait prise J.K. Rowling, qui était de défendre une cadre d'une assez grosse ONG, en disant, c'est pas normal que cette cadre n'ait pas eu son CDD qui soit renouvelé, parce qu'elle s'est contentée de tenir des propos transphobes sur son lieu de travail.
Et donc, on a parlé plusieurs fois du problème des toilettes, parce qu'apparemment, c'est un problème. J'ai lu donc dans un article que le HRC, soit le National Equality and Human Rights Regulator, a évoqué qu'il pourrait y avoir une mise en place des toilettes mixtes, et qu'ils ont ajouté d'ailleurs qu'il n'y aurait pas de police des toilettes. Donc, est-ce que c'est une véritable solution, cette ségrégation des espaces, ou est-ce que c'est encore plus pour exclure les personnes trans?
Il faut savoir que les personnes trans, elles ne sont pas apparues hier. Quand on écoute les transphobes, on a l'impression que les personnes trans, elles ont été inventées en 2015 par Jean-Michel Personne Trans, qui avait un peu de pognon à se faire. Évidemment, ce n'est pas le cas. Des personnes trans, il y en a depuis bien longtemps, et ça fait bien longtemps qu'elles vont aux toilettes de leur sexe ou de leur genre réel, comme vous préférez. C'est-à-dire, pour les femmes trans, les toilettes des femmes, pour les hommes trans, les toilettes des hommes. Et il faut bien regarder que cela n'a jamais posé de problème. Il n'y a pas d'agression sexuelle dans des toilettes par des femmes trans. C'est un mythe. Il y a eu quasiment, à ma connaissance, aucun cas dans lequel ça s'est présenté. En France, ce n'est jamais arrivé. Je n'ai pas le souvenir d'un cas où ce soit arrivé et j'ai cherché. Donc tout ça, c'est une fiction. Les transphobes sont effectivement obsédés par les toilettes, mais les réactionnaires sont assez obsédés par les toilettes. À une époque, c'était le point de fixation aussi du mouvement antiféministe, les toilettes. Alors pourquoi? Je ne sais pas, il faut leur demander. Cette réponse en fait, de l'EHRC, c'est une réponse qui vise à faire semblant que les droits de personnes n'ont été enfreints. C'est-à-dire, finalement, les hommes trans iront pas dans les toilettes des hommes, mais ce n'est pas grave, ils iront dans les autres toilettes, les toilettes mystérieuses, qui sont les toilettes pour les personnes trans, qu'on n'a jamais construites. Les femmes trans n'iront pas dans les toilettes des femmes, elles iront aussi dans ces toilettes mystérieuses, parce qu'apparemment, il n'y a pas besoin de séparer... les femmes n'ont pas besoin d'un espace séparé dans ce genre de cas. Quand c'est des hommes trans, c'est bon. Et puis, surtout, en réalité, les personnes cis seront préservées de devoir partager des toilettes publiques avec des personnes trans et des personnes LGBT. Il faut bien voir que ce n'est pas du tout une solution. Pourquoi ? Parce que ce qu'on voit, c'est que les gens se permettent de la faire eux-mêmes, la police des toilettes. Il y a une quantité énorme de personnes, et souvent des personnes cis, des personnes qui ne sont pas trans, qui sont traquées dans les toilettes, dans les pays où on a eu ce débat. Aux États-Unis, on a eu récemment le cas d'une jeune femme qui était juste une jeune femme cis, un peu présentant un peu masculine, avec les cheveux un peu courts, un petit peu trop noir peut-être du point de vue des personnes qui l'ont dénoncée. Et on a des gens qui sont allés chercher la police pour aller virer cette pauvre dame qui venait juste faire sa petite affaire personnelle dans les toilettes et qui ne demandait rien à personne. Il faut voir que c'est souvent ces personnes-là en fait qui prennent en premier. Évidemment, les femmes trans et les hommes trans sont mis en danger. Les femmes trans et les hommes trans ont toujours été mis en danger par les personnes cis dans l'espace public. C'est les personnes cis qui nous insultent, c'est les personnes cis qui nous agressent. C'est les personnes cis qui nous traquent et qui nous maltraitent quand elles se rendent compte qu'on est trans. Mais ça touche tout un tas de personnes. Et en fait, ce qu'on va avoir, ça va pas être peut-être une police du genre, mais ça va être des milices du genre. Depuis que cette décision de justice est passée, il n'y a quasiment pas un jour qui se passe sans qu'il y ait un nouvel article sur « cette femme a voulu juste aller au WC et elle a été dénoncée par quelqu'un qui était là, qui l'a accusée d'être trans ». Et c'est extrêmement humiliant de devoir finalement se justifier auprès de personnes qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas de regard sur qui vous êtes et qui viennent se permettre d'exiger que vous prouviez qui vous êtes, ce que vous avez dans la culotte, qu'est-ce que vous aviez entre les jambes quand vous êtes né, etc. Si une femme trans est victime de violences conjugales, qu'est-ce qui se passe? Si une femme trans qui n'a jamais commis d'agression sexuelle, qui ne met personne en danger, est envoyée en prison, mettons dans le cas par exemple d'une condamnation illégitime, par erreur, on va l'envoyer dans une prison pour hommes où elle va être victime d'agression sexuelle. Tout ça sont des situations qui sont ouvertes désormais par ce genre de décision et qui mettent factuellement de prime abord les personnes trans, mais en réalité tout le monde dans une espèce de société de la surveillance permanente sur le plan du genre, tout ça pour régler un problème qui n'existe pas, je le rappelle. Le seul problème qui existe vis-à-vis de cette question, c'est que des personnes transphobes se sentent mal à l'aise face à la personne, à la présence de personnes trans dans l'espace public.
Donc ça veut bien dire du coup que cette nouvelle définition ne va plus, va empêcher les personnes trans d'être protégés par l'Equality Act, du coup, selon leur genre réel.
Oui, absolument. Ça, c'est ce qui est clairement établi par cette décision, c'est que l'Equality Act de 2010 ne s'applique pas aux personnes trans, c'est-à-dire, encore une fois, une femme trans victime de violences conjugales n'a pas le droit d'obtenir refuge dans un refuge pour femmes battues. Il faut savoir qu'on a posé la question, hein, il y a des journalistes qui ont été voir des présidentes et des directrices de refuges pour femmes battues qui ont dit « nous, on a absolument pas, c'est même pas sur la liste de nos préoccupations ». Mais bon, manifestement, il y a des gens qui savent mieux. Ensuite, il faut prendre en compte le fait qu'on a des activistes transphobes qui demandent qu'on considère que cette décision de justice soit interprété comme déterminant l'ensemble de la loi sur le Royaume-Uni, c'est-à-dire comme procédant à un retour sur toutes les transitions et sur l'effacement en réalité de toute forme de reconnaissance de la transidentité au Royaume-Uni. Ce n'est pas ce que dit stricto sensu la décision, mais c'est dans ce sens-là que le mouvement anti-trans l'interprète, en poussant pour que tous les clubs sportifs excluent les femmes trans, pour que tous les espaces non mixtes excluent les femmes trans, en disant « on a le droit de le faire », mais en même temps en se lamentant du fait que la majorité des gens qui gèrent de tels espaces n'aient pas envie de le faire. Parce que la réalité, c'est qu'encore une fois, le mouvement transphobe prétend parler pour une majorité silencieuse, mais quand on regarde ce que fait la majorité, c'est pas ce qu'ils veulent. Donc, du coup, tout porte à croire, et il faut craindre que dans l'avenir, on ait un mouvement transphobe qui dise « eh bien, ce n'est plus on a le droit de refuser l'accès aux femmes trans, par exemple, à un bar lesbien, mais on a l'obligation de refuser la présence des femmes trans dans ces espaces ». Là-dessus, il faut bien prendre en compte le fait que ce n'est qu'une étape dans ce processus.
J'ai une dernière question, parce qu'on a parlé un petit peu aussi des personnes cis, enfin des femmes cis qui vont se faire agresser parce qu'elles sont soupçonnées d'être des femmes trans, comme on l'a vu aussi dans les Jeux Olympiques il y a eu plusieurs débats là-dessus. Est-ce que vraiment cette définition, qui reste très vague, on l'a dit par rapport au sexe biologique, parce que du coup ça ne veut rien dire vraiment officiellement, quoi. Est-ce que les femmes cis qui se réjouissent de cette nouvelle définition ne sont pas totalement dans le déni finalement? Enfin, je veux dire, ça reste quand même quelque chose de sexiste, dans le sens où on n'a pas remis en cause la définition de l'homme, mais bien la définition de la femme. Bon, parce qu'il y a eu du lobbying, mais ça veut dire quand même quelque chose. Et ça, enfin, j'ai l'impression quand même que ça veut remettre les femmes cis ou trans dans des catégories bien, bien essentialisantes, quoi.
Alors déjà, les femmes cis, dans leur grande majorité, elles sont plutôt... il faut bien constater qu'elles ne sont pas mobilisées pour obtenir la perte des droits des femmes trans. Hein. Que ce soit les femmes cis en général et que ce soit les organisations féministes, notamment les organisations féministes de terrain en général, ne sont pas les organisations qui demandent ces choses-là. Il faut bien prendre en compte le fait que les organisations anti-trans qui se présentent comme féministes et qui ont mené ce combat sont des organisations qui se sont créées pour l'occasion. Ce ne sont pas des organisations féministes au long cours qui ont dit « Ah bah en fait, maintenant, notre sujet, c'est les femmes trans hein. ». La grande organisation de terrain au Royaume-Uni, qui est Speak Out, qui est, pardon, la grande organisation féministe de terrain au Royaume-Uni, qui est Sisters Uncut, qui lutte contre l'austérité, c'est une organisation qui est favorable aux droits des personnes trans. Là-dessus, la question, c'est pas est-ce que c'est des personnes qui se trompent, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, en fait, en termes de, voilà, de ce à quoi va ressembler le monde. Effectivement, ça veut dire qu'il va y avoir un soupçon de transidentité qui pourra être mis sur n'importe qui. On a vu des cas qui sont extrêmement graves là-dessus. Déjà, des personnes trans qui ont été exclues. Ensuite, on a vu des femmes cis qui ont perdu leur accès à certains lieux, qui ont perdu, pour un certain cas, leur emploi. Notamment, ça arrivait récemment aux États-Unis parce qu'elles étaient soupçonnées d'être des femmes trans. Et puis ensuite, en fait, c'est la présence de toute non-conformité, de toute divergence sur le plan de la présentation de soi qui devient un problème. La panique transphobe, c'est une panique de genre. C'est une panique qui vise à remettre les hommes et les femmes dans des cases, qui vise à les pousser vers une forme de normalité hétérosexuelle. On a vu que cette panique, elle déborde très rapidement sur les personnes qui sont des lesbiennes butch, qui sont des femmes masculines, qui sont des hommes gays un peu trop visibles, qui font du drag, etc., etc. Et puis, elle touche aussi des publics qui ne méritent pas d'être attaqués de la sorte. Notamment, au Royaume-Uni, il y a eu une grosse attaque sur les droits des enfants trans. Il y a eu le fameux rapport CAS qui est sorti il y a quelques temps, qui est un rapport complètement bidonné, qui vise à dire que, eh bien, en fait, les enfants trans, il faut leur retirer leur protection. Et là encore, c'est des populations qui sont soumises plus facilement aux agressions sexuelles, au harcèlement, à toute forme de violence, en plus du fait d'être LGBT, d'être queer, qui est déjà en tant que tel, si on est dans une société qui ne l'accepte pas, c'est un problème. Au Royaume-Uni, il y a quelque temps, il y avait une loi qui s'appelait la section 28 qui interdisait toute sensibilisation à la question de l'homophobie, notamment à l'école. On revient vers une situation comme celle-ci. Je pense que c'est un peu la raison pour laquelle il ne faut pas se décourager. On n'a pas, en tant que communauté, le droit de se décourager, de toute façon. On n'a pas ce luxe-là. C'est le fait qu'on en vient de la société idéale des transphobes. On en vient de cette société. Il n'y a pas si longtemps, c'était illégal encore de changer de sexe à l'état civil au Royaume-Uni. Il n'y a pas si longtemps, en France, pour changer de sexe à l'état civil, il fallait prouver qu'on avait été l'objet d'une castration médicale. Toutes ces situations-là, on les a déjà connues par le passé. Malheureusement, l'arc de l'histoire, parfois, il retourne un petit peu trop dans le sens de la régression et dans le sens de l'obscurantisme. Mais c'est notre charge de lutter pour que ces droits ils soient reconquis. Ils ont été conquis une première fois. Ils peuvent être reconquis. Et je crains, pour les transphobes, qu'il n'ait gagné un peu qu'une victoire à la Pyrrhus, en fait, à long terme. Parce que là, ce qui se révèle à la majorité, c'est le fait que c'est un mouvement extrêmement cruel, c'est un mouvement extrêmement peu intéressé par les problèmes concrets des femmes et des personnes LGB. Et ce que je suppose, moi, à terme, en tout cas le pari que je fais, c'est que la réalité du besoin légitime de dignité des personnes trans, des femmes en général, de protection des enfants face à des abus, etc., eh bien, reviennent en force et que finalement, cette victoire qui a été gagnée par le mouvement anti-trans au Royaume-Uni, ce ne soit qu'une victoire temporaire. Mais évidemment, pour ça, il va falloir se battre.
Merci beaucoup. Merci Margot Mahoudeau. C'est une très belle conclusion, je trouve, teintée d'optimisme. Je rappelle que vous êtes la coprésidente de l'association Espace Santé Trans. D'ailleurs, chers auditeuristes, si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, l'Espace Santé Trans organise un goûter, donc le 9 mai, à la Bulle. Donc on vous laisse aller checker les infos sur l'Instagram de l'association. On se quitte sur une nouveauté musicale. Nous écoutons Auf Wiedersehen de Cecilia da Colonia, une ancienne de Radio Campus Paris.
Et tu me dis Auf Wiedersehen. Si tu me fuis, t'aimais quand même. Assis seul dans mon espace, je compte les gouttes de pluie, le temps qui passe. Et j'imagine lui, ma peau qui lasse. C'est bien ce qu'on s'est dit, c'est pas si classe. L'as-tu retrouvé à... Sais-tu en encore aimé. Ce qu'on s'interdit.
Cet épisode a été présenté par Sam et réalisé par Colin. J'aimerais remercier tout particulièrement mon ami Forest Bor qui m'a aidé à construire cette interview, donc merci Forest. Vous pourrez retrouver tous nos épisodes sur Deezer et Apple Podcasts, ainsi que sur notre site radiocampusparis.org. Vous y trouverez aussi toutes les références citées dans cette émission. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour ne manquer aucun de nos épisodes. À très bientôt.
Et tu me dis, à vie.